France Info.
Bonsoir, une prestation saluée sur la forme comme sur le fond, mais qui ne suffit pas encore à convaincre et rassurer une majorité de Français. Voilà dans les grandes lignes le résultat de notre enquête Odoxa pour France Info Le Figaro, réalisée hier soir à chaud au sortir du discours d'Emmanuel Macron en réponse au mouvement des Gilets jaunes. Le chef de l'État reçoit députés et sénateurs de sa majorité à l'Élysée lors de la mobilisation à sonner. Nous ferons le point en direct avec Julie Marie Lecomte. Les informés se penchent ce soir sur les conséquences de ces annonces présidentielles. Le compte y est-il ? Allons-nous vers un cinquième samedi de mobilisation émaillée de violence ? On en parle avec nos invités. Bonsoir à vous, Saveria Rojec.
Bonsoir.
Journaliste politique et présentatrice sur Public Sénat. Également invitée, Catherine Rambert. Bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste, créatrice du réseau Women Strategy for Success. Avec nous également notre partenaire Albert Zé. Nous, bonsoir Albert,
bonsoir.
Rédacteur en chef au service politique du Figaro, également présent sur ce plateau. Bonsoir Franck Tapiro.
Bonsoir.
Bienvenue Franck, président fondateur de l'agence Hémisphère Droit,
faut
préciser, directeur général du laboratoire de marketing émotionnel Data Calab. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio et à la télé sur le canal 27 de la TNT. Et tout d'abord, le cap sur l'Élysée. Bonsoir à vous, Julie, Marie Lecomte.
Bonsoir.
Emmanuel Macron, Julie, reçoit les parlementaires de sa majorité. Quel est le message ?
Écoutez, deux choses, en fait, dans ce rendez-vous décidé en fin de semaine dernière. Un, la catharsis. L'armée d'Emmanuel Macron a beau avoir essayé de lui faire remonter des notes pour qu'il sache ce qui se passe en circonscription depuis le début de la crise, elle ne se sent pas suffisamment associée. Alors ce soir, les petits soldats espèrent pouvoir raconter au président les ronds-points bloqués, la détresse des manifestants d'un côté et de l'autre, celle de ces entreprises qui font faillite, le chômage partiel qui se multiplie, l'exaspération. Ils ont besoin que le chef sache combien souvent, depuis trois semaines, il donne d'eux-mêmes. Un, la catharsis, de le combat. Cela n'était jamais arrivé à ce point-là depuis le début du quinquennat. Les doutes avoués, même plus toujours en aparté, les menaces verbales, physiques, les accusations d'arrogance, de déconnexion, des accusations qui minent, les désaccords, mauvais timing, mauvais tempo, mauvais signaux, remise en cause du tandem exécutif, incompréhension face au silence du président, gêne devant la rigidité du chef du gouvernement, toujours pas encarté, toujours intrus, absent lors de la conquête du pouvoir. Ce matin, pendant la réunion de groupe, quelques-uns ont pris la parole pour rappeler le devoir d'unité, la nécessaire cohésion. Premiers effets en séance à l'Assemblée, applaudissements appuyés à chaque intervention d'un Édouard Philippe malmené par l'opposition. Devoir de cohésion, remobilisation, c'est aussi cela la mission ce soir d'Emmanuel Macron.
Un dernier mot, Julie, il y avait un petit flottement entre le président et sa majorité rapidement.
Un petit flottement.
Un petit flottement. Est-ce qu'il y avait un petit décalage, une forme d'incompréhension ? Est-ce que, au fond, il y avait urgence pour Emmanuel Macron à essayer de resserrer les rangs ? C'est ça l'idée, en fait. Hein.
Ah c'est ce que je vous disais. Beaucoup dans la majorité ne comprenaient pas pourquoi le président de la République ne sortait pas du bois plus tôt, ne venait pas en renfort, ne s'appuyait pas également davantage sur eux qui étaient sur le terrain, qui avaient beaucoup à lui dire, beaucoup à lui suggérer. Ils ont très souvent eu le sentiment de ne pas être entendu. Et c'est souvent le cas de ces députés qu'on pourrait considérer un petit peu comme le ventre mou. Mais vous savez, ces gens de la société civile qu'Emmanuel Macron est allé chercher et puis qui n'a pas su ou que le groupe n'a pas su mettre suffisamment en avant. Et
Merci.
C'est eux qui ont envie d'être entendus ce soir.
Merci à vous pour toutes ces précisions, pour ce récit en direct de l'Élysée. Merci à vous, Julie, Marie Lecomte. Alors, Saveria Rojec, c'est la fameuse calinothérapie. Il y avait un petit peu le feu au sein de la majorité.
Ah oui, il y avait le feu. Les députés, les sénateurs, les parlementaires avaient besoin d'être rassurés. Ils sont inquiets, ils ont été très inquiets. Certains nous ont parlé, m'ont parlé même d'une inquiétude, d'un soulèvement populaire. Ils avaient peur de ça. Donc ils ont été rassurés par les annonces hier d'Emmanuel Macron. Il était temps que le président parle.
Oui, Albert Zénou, la nouveauté, c'était qu'au fond, que les députés commençaient à l'exprimer ouvertement.
Oui, alors ils ont été rassurés, effectivement, mais ils ont été aussi
passablement énervé. Le fait qu'ils n'aient pas été écoutés, comme le disait votre reporter tout de suite, n'ont pas été écoutés. Les députés ont compris, beaucoup de néo-députés qui n'avaient jamais ni fait de politique ni jamais été élus, ont compris ce que c'était que le rôle d'un député. Et donc, pour la première fois, ils ont été confrontés à la réalité et ils ont vu ce que c'était que d'avoir leur base, leur électeur, très remontés et avec un pouvoir qui ne les écoutait pas. Ils ont le sentiment d'être seuls. Ils l'ont dit ce matin en réunion de groupe. Ils ont fait passer des messages. Pour autant, la fracture semble réelle entre au sein même du groupe. Il y a vraiment une volonté de marquer les esprits.
Catherine Rambert, vous parleriez de fracture vous-même.
La fracture est d'abord entre les députés et le peuple. Hein, et on est quand même face à une crise de représentativité. On parle du pouvoir vertical d'Emmanuel Macron. Certes, il a dit maintenant qu'il allait s'appuyer sur les corps intermédiaires et sur les maires. Tant mieux. Enfin, la fracture et la crise de représentativité, elle n'est pas nouvelle. La perte de confiance, elle n'est pas nouvelle. Et je pense qu'aussi les responsables sont aussi les députés. Bien sûr, ils ont remonté des colères. Mais enfin, ils ne sont plus représentatifs depuis longtemps du peuple qu'ils sont censés représenter.
Franck Tapiero, tous les présidents ont fait ça, hein, d'essayer de rattraper la majorité quand ça va mal.
Oui, rattraper la majorité, d'abord parce qu'ils en ont besoin pour gouverner. On sait très bien que depuis quelques temps, même au sein de la République En Marche, il y avait une forme de déconnexion. On sentait que le président était loin, finalement, de ses troupes, loin du terrain. N'oublions pas que son mouvement s'appelle En Marche, les pieds sur terre, qu'ils ont avancé pendant la campagne, qu'ils allaient au devant des Français. Donc finalement, les Gilets jaunes auraient dû être pas une formalité, mais quelque chose de cohérent complètement avec la dynamique que le mouvement En Marche avait lancée.
Ce qui n'est pas le cas. Hein.
Et là, non, voilà, justement, et là, il y a une rupture. Donc c'est en fait ça qui a inquiété, surtout les plus proches, et qui se sont dit, mais c'est pas possible, ce mouvement, finalement, des Gilets jaunes. On aurait dû aller au devant, on aurait dû, depuis longtemps, sentir les signaux, parfois très faibles, voire même muets, et devancer et anticiper, plutôt que de se prendre la salle en pleine figure, et réagir surtout très tard.
Mais d'ailleurs, Emmanuel Macron a confié ce week-end, il se dit très mal entouré par son entourage, par ses conseillers.
Mais ça, c'est un classique d'un président bousculé, c'est la faute du président.
Et au moins, il est entouré, parce que d'habitude, un président est
très peu entouré, surtout. Ce que je voulais ajouter, c'est qu'à mon sens, la priorité pour Emmanuel Macron aujourd'hui, elle n'est pas de rassurer, de câliner sa majorité. Elle est de retourner l'opinion publique et le soutien de l'opinion publique au mouvement. C'était l'urgence d'hier soir avant tout, avant la majorité, avant les députés En Marche.
Allez, on poursuit là-dessus, 20h10 sur France Info. Tout d'abord, le rappel de l'info avec vous, Diane Ferchit.
Les patrons des grandes banques françaises s'engagent. Ils n'augmenteront pas les frais bancaires en 2019. Auprès d'Emmanuel Macron, ils promettent également de plafonner les frais d'incident bancaire à 25 euros pour les ménages les plus fragiles. Une participation à l'effort collectif au lendemain des annonces du président de la République. Devant l'Assemblée nationale, la ministre du Travail a apporté quelques précisions, notamment sur la défiscalisation des heures supplémentaires. Muriel Pénicaud affirme qu'elle s'effectuera dès le 1er janvier, une mesure qui concernera aussi les fonctionnaires. Les lycéens, toujours mobilisés contre les réformes dans l'éducation nationale, 60 lycées totalement bloqués aujourd'hui, 450 perturbés dans toute la France avec des manifestations dans plusieurs villes, à Amiens, Lyon ou encore Nantes dans la capitale. Ils étaient 2600 lycéens et étudiants rassemblés devant le siège du ministère dans le 7e arrondissement. Les manifestants se sont mis à genoux en signe de soutien aux lycéens arrêtés à Mantes-la-Jolie la semaine dernière et le syndicat lycéen SGL appelle sur France Info les professeurs à se mettre en grève. 8 mois de prison avec sursis et 375 000 euros d'amende, condamnation de Marc Ladret de la Charrière, l'ami du couple Fillon qui avait offert un emploi de complaisance à Pénélope Fillon. La femme de l'ancien Premier ministre avait été rémunérée pour un total de 135 000 euros alors qu'elle n'avait fourni que deux notes de lecture à la revue des Deux Mondes, propriété de Marc Ladret de la Charrière. Les salariés de l'usine Ford de Blanquefort près de Bordeaux approuvent le plan de reprise présenté par Punch Powerglide. Le potentiel repreneur belge a été largement plébiscité en Assemblée Générale. La décision finale revient désormais à Ford.
France Info.
20h-21h, les informés, Jean-François Aquili.
Et voilà le sondage, hein. 59% des Français qui ne sont donc toujours pas convaincus par Emmanuel Macron après son discours télévisé d'hier soir en réponse à la crise des Gilets jaunes. Mais le président fait nettement mieux que lors de ses précédentes prises de parole. Sa prestation à 40%, notez bien ce chiffre, a été jugée près de deux fois plus convaincante que la précédente. C'était 21%, donc ça progresse. Principal résultat donc de cette enquête Odoxa pour France Info et Le Figaro, réalisée après l'émission Internet auprès d'un millier de personnes. Tout d'abord, quelques précisions avec Céline Braque, la directrice générale d'Odoxa.
il y a une somme de frustrations qui sont accumulées par les Français, notamment en termes de pouvoir d'achat. Donc cette allocution ne pouvait, c'était impossible, complètement renverser la vapeur. En revanche, elle marque vraiment un tournant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a encore une majorité assez nette, hein, de 59% des Français qui n'a pas été convaincue par l'allocution du président de la République. On a encore une majorité plus courte, 54% de Français, qui appellent à la continuité des actions, à la poursuite des blocages, des manifestations. Mais on voit que dans les deux cas, il y a un net reflux par rapport à ce qu'on pouvait observer lors des dernières mesures. Eh bien, le président a vraiment marqué des points.
Albert Zénou, le Figaro partenaire de ce sondage au Doxa pour France Info également. Dans l'ascenseur, tout à l'heure, vous me disiez, ça fait un mois qu'on parle de tout cela. Est-ce que vous avez l'impression, au regard du sondage, que les lignes bougent quelque part?
Ça fait un mois qu'on parle que de ça. En tous les cas, au Figaro, dans le service politique, on ne parle que de ça, on n'écrit que sur ça pratiquement.
C'est le sujet à la une.
C'est le sujet à la une, d'ailleurs. Je pense que les Français commencent peut-être à en avoir assez, mais si je reviens deux secondes sur le sondage,
oui, on
parlait, 59% des Français qui ne trouvent pas convaincant. Alors certes, le président a multiplié par deux, il est passé de 20, 21 à 40, mais il reste encore une grande majorité, une forte majorité même de Français qui se disent pas convaincus par l'allocution du président hier soir. Et il y a quand même encore 54% des Français, donc une majorité certes courte mais réelle, qui veulent que ça continue, que les manifestations des Gilets jaunes se poursuivent. Donc il y a une vraie. Pour le président, il y avait un objectif principal, c'était de couper le cordon ombilical qui pouvait exister entre l'opinion française et les Gilets jaunes. Jusqu'à présent, il y a assez peu de participants de manifestants dans les rues. C'est quelques dizaines de milliers, mais il y avait une adhésion massive de la population. Et c'est ça qu'il fallait pour le président de couper. Il y est parvenu un petit peu, il a réduit pour l'instant, mais la tâche n'est pas encore achevée.
Justement, là-dessus, ça veut dire qu'il a clampé ou pas le président hier soir?
Très rapidement, effectivement, il y a toujours un soutien, certes, de l'opinion, une majorité de Français qui soutiennent le mouvement. Néanmoins, je trouve qu'on sent une inflexion, et cette inflexion, on la sent notamment dans la classe politique, on la sent à droite. Quand Alain Juppé a dit aujourd'hui, il faut accepter la main tendue. Voilà, il y a une réelle inflexion.
Il n'en fallait pas beaucoup pour Alain Juppé pour accepter la main tendue. De toute façon.
Il y a une réelle inflexion aujourd'hui dans la classe politique. Elle a accepté Jean-Luc
Mélenchon,
mais je
ne sais pas si Alain Juppé porte parole des Gilets jaunes, donc je ne sais pas s'il sera audible là-dessus.
Catherine Rambert, sur ce mouvement auquel on assiste aujourd'hui, est-ce qu'il y a un renversement d'opinion ou quand même le soutien est encore important, hein?
Oui, vous avez raison. Néanmoins, il devait casser cette majorité qui soutenait les Gilets jaunes. On va dire qu'il n'a pas complètement effrité, mais enfin, elle est quand même maintenant, on va dire que c'est 50-50 hein, pour les équilibres. Il y a quand même 54% dans le sondage Odoxa des gens qui pensent qu'il a pris la mesure de la gravité de la situation et 58 qui estiment qu'il a reconnu ses erreurs. Donc il a cassé cette unanimité contre lui. Il faut aller probablement plus loin. Moi je trouve qu'il a convaincu sur la forme davantage que sur le fond, même si sur le fond on ne peut pas lui imputer la responsabilité de toute la colère des Gilets jaunes qu'il porte depuis 40 ans de gouvernements successifs. Voilà.
Franck Tapiro, si vous le permettez, je vais vous faire réagir. Vous, à ce qu'on dit, c'est Gilets jaunes. Alors je sais bien que ce sont toujours des témoignages qui sont parcellaires puisque il n'y a pas de porte-parole, on le sait, réel du mouvement, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui s'expriment sur les ronds-points. Témoignage recueilli par France 2, c'est à Montauban, donc après l'allocution présidentielle.
Mitigé, une avancée, mais en marche, oui, en effet, il a fait du rétropédalage. Il aurait dû faire un petit peu plus. Voilà.
Un petit peu déçu, une porte s'est ouverte, à nous de l'entrouvrir un peu plus importante, et puis surtout la mesure qu'on attendait tous, qui est symbolique, et là, il n'a pas touché, c'est l'ISF.
On va quand même avoir une baisse de CSG, ça c'est sûr. Alors peut-être que là, beaucoup de retraités vont peut-être se dire qu'ils arrêtent de manifester parce que pour eux, ils ont peut-être obtenu ce qu'ils voulaient.
Il aurait fait ça en temps et en heure, c'est-à-dire après le samedi 11. Je pense que le mouvement aurait été tout autre.
Alors Franck Tapiro, on entend ces personnes qui s'expriment, ça va être compliqué.
Ah oui, mais on voit bien là qu'il ne s'agit pas uniquement d'une problématique de mesures, de chiffres. Il s'agit d'un enjeu émotionnel. La première des missions d'Emmanuel Macron hier, c'était de reconstruire les conditions de l'écoute. N'oublions pas que c'était lui qui était disqualifié émotionnellement vis-à-vis des Français. Donc il aurait pu sortir n'importe quelle autre mesure, on aurait eu exactement les mêmes réactions. On oublie que quand même, l'émotion est monstrueuse dans le pays. C'est pas seulement le nombre de gens qui défilent, mais c'est le nombre de gens qui les soutiennent. Les Gilets jaunes, c'est un vrai mouvement sociétal comme on n'en a pas eu depuis des années.
Qu'est-ce que traduit l'émotion ?
Mais l'émotion traduit non seulement une colère incroyable, mais une colère qui se transformait en violence pour une seule et bonne raison, c'est que ces personnes-là, c'est de la perception, donc on ne peut pas dire qu'ils ont tort, ont perçu qu'ils avaient été méprisés par le pouvoir, qu'ils n'avaient pas été écoutés, qu'ils n'étaient invisibles, donc ils ont été obligés de mettre un gilet fluo pour être vus, inaudibles, ils sont devenus violents pour être entendus. Donc quand on a toute cette émotion, qui est partagée en plus par beaucoup de Français...
C'est pas tout à fait les mêmes qui sont violents, on ne va pas le malgamer les casseurs...
Attendez, s'il vous plaît, on a vu... Non mais attendez...
Les gilets jaunes...
Arrêtons aussi, ce qui est incroyable, c'est vous savez, ces fameuses phrases dans tout, pas d'amalgame, amalgamons pas. Moi, je pense que...
Mais je pense qu'il n'y a pas d'amalgame à faire, oui, en effet.
Une forme de violence est totalement consubstantielle au gilet jaune, on l'a vu. Il n'y a pas que les gens sans le gilet jaune qui ont créé des actes de violence. Je ne généralise pas. Je dis que sans violence, je pense qu'on parlerait plus depuis longtemps du problème des gilets jaunes. Et on verra au bout du compte. Et vous verrez malheureusement, et c'est dramatique qu'on en arrive là. La violence arrive quand il n'y a plus de communication, quand il n'y a pas d'interlocuteur. Donc, arrêtons de dire, oh non, la violence n'a rien à voir avec les gilets jaunes. C'est totalement faux. Je ne dis pas, tous les gilets jaunes sont violents, mais elle est consubstantielle en forme de langage et de dialectique.
Alors moi, j'arrête pas.
Je veux juste finir. Donc l'enjeu émotionnel, c'était d'abord hier de dire, je me mets à votre niveau. L'empathie, c'est ça. J'essaie de me mettre à votre niveau et de dire, ok, d'abord, de reconnaître ses erreurs, de reconnaître que le style n'était pas bon. D'ailleurs, le style était étonnamment très sobre, c'était plutôt très bien. Voilà pourquoi on recrée des conditions d'écoute. Quand même, on a doublé, de 20 à 40, c'est quand même pas mal. Oui. Donc moi, je regarde le verre à moitié plein et de me dire, il a compris déjà l'enjeu. C'était d'abord de créer des conditions d'écoute et de dire, je suis digne déjà de votre écoute et maintenant, je vais pouvoir enfin vous donner quelques mesures. Mais c'est pour cela qu'il n'a pas créé du jour au lendemain un renversement de table. Parce qu'encore une fois, l'émotion est tellement forte, et vous savez très bien en termes neuroscientifiques, que les émotions dites négatives, c'est-à-dire la colère, durent beaucoup plus longtemps que les émotions dites positives comme la joie. Donc pour faire oublier la colère, il faut du temps, il faut de l'abnégation, il faut se mettre au niveau des autres.
Catherine Rambert, vous partagez quand même ce regard porté par l'homme de communication.
Je maintiens qu'il faut distinguer la violence des casseurs de la violence des gilets jaunes, qui était une colère, qui était une colère. Et ce qui a fait peur au gouvernement, cette colère profonde. Non, oui, mais enfin, bon, il y a l'air de la balayer. Moi, je la distingue vraiment bien parce que.
En une phrase, c'est pas la même chose sur le fait que le compte n'y soit pas. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, pour les gilets jaunes, le compte n'y est pas. En revanche, effectivement, les témoignages qu'on recueille sur les barrages, ce sont les plus radicaux qui sont restés aujourd'hui sur les barrages. Donc, forcément, c'est ceux qui ont
les plus radicaux ou les plus déterminés ou les plus désespérés?
Les plus radicaux. Les plus déterminés, et c'est en tout cas ceux dont les demandes sont les plus difficiles à satisfaire, notamment bien sûr le départ d'Emmanuel Macron.
Allez, 20h20 sur France Info, je vous rassure, on a du temps pour évoquer toutes ces questions. Tout d'abord, le rappel de l'info sur France Info avec vous, Diane Ferchit.
Devant l'Assemblée nationale, Édouard Philippe a défendu les mesures présentées hier soir par Emmanuel Macron afin de tenter d'apaiser la colère des gilets jaunes. Nous voulons aller vite, nous voulons aller fort, a déclaré le Premier ministre. La hausse du SMIC ou encore la défiscalisation des heures supplémentaires qui entrera en vigueur au 1er janvier devrait coûter une dizaine de milliards d'euros à l'État. Le président de la République a lui reçu des représentants des banques cet après-midi et ils se sont engagés à ne pas augmenter les tarifs bancaires des particuliers l'an prochain. Les gilets jaunes qui poursuivent leurs actions, ils étaient encore plus de 10 000 mobilisés en fin de journée, contre 11 000 mardi dernier, selon le ministère de l'Intérieur. Pour le député France Insoumise François Ruffin, la pression doit continuer après les annonces d'Emmanuel Macron. De son côté, Alain Juppé, le maire de Bordeaux, estime que ceux qui appellent à la poursuite de la mobilisation sont des dangers pour la démocratie. Les lycéens, eux non plus, ne faiblissent pas. À Paris, un cortège de lycéens, rejoint par des étudiants, a rassemblé 2600 personnes devant le ministère de l'Éducation nationale. Ils se sont agenouillés en référence aux lycéens interpellés à Mantes-la-Jolie jeudi dernier. Au total, 450 établissements étaient encore perturbés aujourd'hui, 60 totalement bloqués. Comment aider la première ministre britannique? C'est la question que se pose Donald Tusk, le président du Conseil européen, alors que Theresa May cherche à obtenir des concessions de la part des Européens sur l'accord de Brexit. La chancelière allemande Angela Merkel juge, quant à elle, qu'il n'y a pas de possibilité de changer ce texte dont le vote au Parlement britannique a été repoussé.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Encore deux indications chiffrées de notre enquête au Doxa pour le Figaro et pour France Info. Sur le fond, les mesures annoncées sont toutes, je lis le sondage, très largement saluées par les Français qui sont entre 55% et 85% à les juger satisfaisants, ça veut dire une majorité donc. Et effectivement, comme le rappelait Albert Zenou tout à l'heure, 46% des Français souhaitent désormais un arrêt des actions des Gilets jaunes. Donc la majorité est toujours 54% pour une poursuite du mouvement. Diane Ferchit évoquait à l'instant l'intervention du Premier ministre Édouard Philippe à l'Assemblée nationale lors des questions au gouvernement. Écoutez, c'est un petit peu la phrase clé du jour.
Nous voulons aller vite, nous voulons aller fort. C'est le sens des mesures qui ont été évoquées par le président de la République hier.
Aller vite et aller fort, Albert Zénou, qu'est-ce que ça signifie au fond ?
Ça signifie surtout apporter des réponses et aux angoisses des Français et plus particulièrement aux Français les plus démunis qui ont une demande énorme en termes de pouvoir d'achat. Moi, ce que je retiens un peu des mesures, des quatre grandes mesures proposées par Emmanuel Macron hier, c'est il cherchait un effet blast. Et je trouve qu'il ne l'a
effet
pas.
Effet blast pour ceux qui nous écoutent.
Un effet masse.
Un coup de souffle.
Un coup de souffle,
oui, c'est ça.
Et je trouve qu'il ne l'a, il l'a pas vraiment eu. Je m'explique. La mesure phare, c'est-à-dire le SMIC.
On ira dans le détail tout à l'heure, mais allez-y, continuez. Oui.
Absolument. On ne comprend pas bien ce que c'est.
Oui.
On ne comprend pas bien. Il annonce 100 euros. Finalement, ce serait plutôt 80 parce qu'il y a déjà 20 euros qui sont déjà attribués depuis octobre. C'était plutôt c'était dans le programme déjà, donc c'est pas très nouveau. Il perd un peu de sa percussion. Tout ça, ça va faire.
La classe mi, il y a d'autres annonces qui ont été faites.
Oui,
hier soir,
c'est vrai. Oui. Mais donc il perd ce mouvement et cet effet percutant dans l'opinion et notamment chez certains gilets jaunes et chez beaucoup de Français. Donc est-ce qu'il arrivera à convaincre la population et l'opinion ? Pour l'instant, notre sondage dit que oui, les mesures sont plébiscitées. Mais il a perdu, je pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné vraiment hier soir.
Saverio rejette, il n'y a pas d'effet blast, comme le dit Albert Zénou ?
Non, visiblement non, clairement non. Que ce soit,
hein.
Voilà, que ce soit dans les sondages, dans l'opinion publique, dans la classe politique ou sur les barrages, la réponse est non. En revanche, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur Édouard Philippe, tout à l'heure aux questions d'actualité à l'Assemblée nationale. Moi, je l'ai senti, enfin, j'ai vu un Premier ministre assez atteint, assez grave.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça, hein ?
Physiquement, on sent qu'il a plus la même
marqué.
Et alors, bien sûr, oui, il est monté au créneau. Vous l'avez dit, on vient de l'entendre. Hein. Il est monté au créneau pour défendre les mesures. Mais on le sent atteint, on le sent marqué. Il y a eu des échanges assez vifs dans l'hémicycle avec les députés. Il a demandé d'ailleurs plus de concorde, plus de bienséance dans l'espace public, dans le débat public. Mais voilà. En tout cas, moi, je l'ai trouvé assez atteint.
Catherine Lambert.
Il fallait aussi rassurer les gens, parmi les gilets jaunes, beaucoup disaient pas d'entourloupe, attention, on sera vigilant. Donc marteler ça à l'Assemblée nationale, ça marquait aussi une détermination du gouvernement à se mettre en action.
Mais là, je suis pas sûre, pour le coup, que l'exercice soit réussi, parce que justement, on reste très flou sur le
SMIC.
Je pense qu'on va y revenir. Si on s'en tient aux mots, les mots y sont. Après, on verra comment est perçu. Il n'y a pas encore de sondage sur la perte d'après.
Non, mais
Edouard Philippe,
sur le détail des mesures, sur la fameuse augmentation du SMIC, je pense qu'il reste très flou.
Il y a les mesures et il y a le temps employé. Je pense que les gens, le ton un peu martial et un peu ferme, ils se voulaient pour envoyer le message qu'ils vont le faire. Alors après, ils vont être très suivis, ils n'ont pas intérêt à déraper parce que ça pourrait ranimer la flamme.
Alors Franck Tapiro, ce Premier ministre qui est un peu la cheville ouvrière de ces mesures qui doivent être mises en route, si je puis dire, parce qu'il y a ce débat national qui arrive dans peu de temps, dans quelques jours, il a quand même subi la semaine dernière une forme de contradiction publique puisqu'il défendait à l'Assemblée nationale ce débat sur la suspension des mesures qui est devenue, par la grâce présidentielle, une annulation. C'est un peu compliqué d'être...
Moi, je dirais des aveux.
C'est normal.
Vous dites contradiction,
je dirais
des
aveux. Mais rien de nouveau sous le soleil. De tout temps, les premiers ministres ont subi exactement les mêmes désagréments.
Pour vous, c'est une règle générale.
Mais c'est le rôle. Mais en fait, encore une fois, où on adopte la cinquième et on se dit... la cinquième, si justement cette espèce de culbuto, je dirais, entre la France et le président, ça a toujours été le Premier ministre. Malheureusement, ça fait partie des prérogatives.
Des aveux aussi cinglants, il n'a pas eu beaucoup.
Alors attendez, je décide, il exécute.
Attention,
c'est autre chose ça.
Je décide, il exécute. Et puis attention, un climat comme ça, il n'y en a jamais eu. Même en 68, c'est pas comme ça. Donc encore une fois.
Jusqu'à présent, nous étions sur il n'y a pas long d'une feuille de papier à cigarette entre nous deux. C'était ça.
Oui, mais encore une fois, le papier à cigarette devient un petit peu cartonné, même un peu de balsa ou voire du contreplaqué.
Oui, c'est le paquet,
quand il y a
quoi.
Des événements comme ça. Encore une fois, n'oublions pas que le contexte influe énormément dans la relation entre un président et son gouvernement via le Premier ministre. Donc moi, ça ne me surprend pas. Moi, ce que je pense par rapport aux mesures, et ce n'est pas une question de jugement, je pense qu'ils ont évité un piège, surtout dans lequel Emmanuel Macron ne voulait pas tomber, c'était la surpromesse. Vous savez, déjà, on sait que la promesse, malheureusement, n'engage que ceux qui les croient. N'oublions pas que la surpromesse, dans un moment hypersensible, est terrible. Donc il fallait que ces annonces soient calculées pour qu'elles soient à la fois fortes, mais qu'elles ne paraissent pas justement trop fortes, voire suspectes, comme vous le disiez justement tout à l'heure. Donc c'est très compliqué, parce qu'il fallait non seulement annoncer les choses rapides, immédiate pour dire, on a compris que c'est un, le pouvoir d'achat, parce que quand on augmente le SMIC, c'est le pouvoir d'achat, et après on n'impacte pas avec la CSG, donc il fallait être clair et en même temps pas trop en faire.
Dans un instant, nous allons passer ces fameuses mesures au crible, notamment le SMIC. Nous verrons dans quel sens elle aura évolué, cette mesure. Ce sera après la météo et après les rappels de l'info sur France Info. À tout de suite.
France Bleu présente la compilation Talents France Bleu 2018, volume 2. Vos artistes préférés réunis sur un triple CD. Avec trois cafés gourmands, Patrick Bruel, Jennifer, Jane, Zazie, Christine and the Queen, Kenji Girac, Pascal Obispo et bien d'autres. La compilation Talents France Bleu 2018, le volume 2, disponible en triple CD. Un événement France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr. Restez connectés à France Info.
Toute l'actualité, des alertes, des vidéos avec l'application mobile
France Info. France Info Météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, torréfié à l'ancienne pour préserver le goût unique de nos cafés. À retrouver sur malongo.com.
La météo, les prévisions avec vous, Elodie Calac pour Météo France.
Une nouvelle perturbation cette nuit et demain. Des pluies vont s'installer de la Bretagne à la Nouvelle-Aquitaine. Elles deviendront plus éparses l'après-midi et progresseront vers l'Occitanie, alors que ça s'éclaircira un peu sur la pointe bretonne au sud de la Garonne. Notez qu'on pourrait avoir quelques flocons sur le Poitou en tout début de journée. Un peu de neige sur le Limousin et le Massif central vers 700 mètres le matin, 1000 l'après-midi. Sur les Pyrénées, la neige s'abaissera vers 1200 mètres l'après-midi. Sur les régions plus à l'est, beaucoup de nuages. On trouvera quand même le soleil entre les Alpes et la vallée du Rhône le matin. Mais ce sera plus nuageux l'après-midi. Entre la Normandie et la Bourgogne-Franche-Comté, là, ce sera l'inverse. Des nuages, puis du soleil. Sur la Côte d'Azur et la Corse, quelques averses possibles. Il fera souvent moins 3 à 2 degrés le matin. L'après-midi, 3 petits degrés à Nancy, à Lyon, 4 à Paris et Limoges, 5 à Tours, mais 10 degrés à Brest, Marseille, 14 à Biarritz et Bastia.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
France Info, il est 20h30, toute l'info avec vous, Emmanuel Langlois.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Et tout d'abord cette dernière minute, à Strasbourg, plusieurs coups de feu ont été tirés dans le centre-ville vers la Grand-Rue, d'après France Bleu Alsace, qui l'a appris auprès du président d'Eurométropole de Strasbourg. Il y aurait plusieurs victimes. Le tireur en question n'a pas été localisé. La police a fait évacuer le centre-ville de Strasbourg et cantonne les personnes présentes sur place dans les bars. Plus de détails évidemment dans le journal de 21h. Et puis toute la soirée sur France Info. L'actualité, c'est aussi après les annonces. Place au service après-vente. Le Premier ministre a défendu devant l'Assemblée les mesures déclinées hier par Emmanuel Macron pour tenter d'enrayer le mouvement des Gilets jaunes. Les députés socialistes, insoumis et communistes ont, eux, déposé une motion de censure contre le gouvernement. Elle ne sera pas discutée avant jeudi. Et puis au lendemain de ce discours d'Emmanuel Macron, il y a certaines mesures qui restent à éclaircir. Le chef de l'État a notamment annoncé que les retraités qui gagnent moins de 2000 euros par mois ne seraient plus concernés l'an prochain par la hausse de la CSG, comme cette année. Mais en réalité, il ne faut pas forcément se fier à ce plafond de 2000 euros. C'est un peu plus compliqué, Célia Kiré.
Si vous êtes retraité, que vous vivez seul, que vous percevez moins de 2000 euros par mois, vous êtes certainement concerné par cette nouvelle mesure. Vous ne subirez plus de hausse de la CSG en 2019. C'est le cas qui a été présenté hier par Emmanuel Macron. Mais si vous êtes en couple ou si vous avez d'autres revenus en plus de votre pension, il ne faut pas prendre en compte ce plafond de 2000 euros par mois. Ce n'est pas le bon critère. Il faut regarder votre revenu fiscal de référence sur la feuille d'impôt et ne sont concernés que les retraités qui déclarent moins de 33 000 euros de revenus par an. Si on imagine un couple de retraités où l'un des deux perçoit moins de 2 000 euros et l'autre davantage, ce couple n'est pas certain d'être gagnant. tout dépend du revenu fiscal de référence. Finalement, au-delà de l'annonce, les contours de cette mesure ne sont pas encore bien dessinés. Le gouvernement ne peut pas dire pour le moment combien de retraités sont concernés. Ce sera l'objet d'un nouveau texte de loi dans les tout prochains jours.
Célia Kyrel, les Gilets jaunes sont nombreux à se déclarer déçus, à vouloir poursuivre leur mobilisation. Acte 5 samedi, à la quatrième semaine du mouvement, un peu plus de 10 000 manifestants étaient encore recensés tout à l'heure à 18h sur tout le territoire, contre 11 000 à la même heure mardi dernier, d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur. Le mouvement lycéen, lui aussi, s'est poursuivi sans s'amplifier, alors que le syndicat UNEL appelait à un mardi noir. Ce bilan était sensiblement le même qu'hier. 450 établissements perturbés, dont 60 bloqués, et des centaines de lycéens qui ont manifesté dans plusieurs villes de France. Du football et le PSG qui joue sa place en huitième de finale de la Ligue des Champions. Ce soir à Belgrade face à l'Étoile Rouge. Le match, c'est à partir de 21h, tout à l'heure. Pour l'heure, voici la deuxième partie des Informés.
20h, 21h, France Info, les Informés, Jean-François Aquili.
La deuxième partie des Informés de France Info avec nos invités, Saveria Rojec, journaliste politique et présentatrice sur Public Sénat, avec Catherine Rambert, journaliste créatrice du réseau Women Strategy for Success, avec Albert Zenou, notre partenaire, rédacteur en chef au service politique du Figaro, avec Franck Tapiro, président fondateur de l'agence Hémisphère Droit, directeur général du laboratoire de marketing émotionnel Data Calab. Je vous rappelle la principale information de cette soirée. Nous venons de l'apprendre à Strasbourg. Plusieurs coups de fil, plusieurs coups de feu ont été tirés dans le centre-ville vers la Grande Rue. C'est ce qu'a appris France Bleu Alsace auprès du président d'Eurométropole de Strasbourg. Cela s'est passé vraisemblablement au marché de Noël. Il y aurait plusieurs victimes. Le tireur n'a pas été localisé. La police a fait évacuer le centre-ville de Strasbourg et cantonne les personnes présentes sur place dans des bars. Évidemment, nous vous tenons informés sur France Info dès que nécessaire, dès que nous disposons d'autres informations. Nous revenons à notre sujet, notre sondage Odoxa sur les gilets jaunes et la prestation du président de la République hier soir. Et nous allons évoquer l'une des mesures phares annoncées par le chef de l'État, c'est la revalorisation du SMIG. Il y a donc 100 euros qui ont été mis sur la table. Le sujet est évoqué sur tous les ronds-points depuis hier soir. Il a fait l'objet d'ailleurs d'un ultime arbitrage avec Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, aujourd'hui à l'Assemblée nationale.
Il y a deux effets cumulés. Il y a un effet d'augmentation du SMIC qui va être autour de 1,8%, c'est-à-dire qui arrivera à 1210 euros. C'est la plus forte augmentation depuis 13 ans. Il y a un effet cumulé des 100 euros qui bénéficieront à toutes les personnes concernées. Vous savez combien il y a de personnes qui vous écoutent, qui ont la prime d'activité? Aujourd'hui, c'est 2 600 000 personnes qui sont concernées par cette augmentation de pouvoir d'achat, et tous les salariés au SMIC. Je crois que il faut, peut-être, on peut discuter, mais il faut reconnaître les faits. Oui, nos salariés, les concitoyens les plus modestes vont avoir une hausse du pouvoir d'achat l'année prochaine. C'était urgent, c'est important, nous l'avions entendu.
Alors, Saveria Rojec, il y a eu une évolution autour du salaire minimum, puisqu'au départ, il n'était pas question d'y toucher. Elle l'avait elle-même, la ministre, précisé. Puis, il y a eu cette annonce du président hier soir. On avait la sensation que la hausse naturelle, la revalorisation légale des 1,8 était incluse, et on a appris aujourd'hui que c'était 100 euros net.
Ah oui, absolument. Moi, à mon sens, cette mesure, c'est sans doute une des mesures les plus symboliques parmi les annonces d'hier soir. Et c'est également la mesure la plus floue. Je pense qu'il y a un véritable hiatus là-dessus. Le Sénat, ça c'est une information, a voté tout à l'heure la revalorisation de la prime d'activité, qui sera donc revalorisée dès le 1er janvier et pas le 1er avril. Mais tout ça reste très flou. Toute la journée, on a essayé de mieux comprendre. On a entendu porte-parole du gouvernement Benjamin Grévy, on a entendu Olivier Dussopt, le secrétaire d'État aux comptes publics. Ils nous ont bien expliqué, ça sera à la fois une baisse des charges et une augmentation de la prime d'activité. Donc ce n'est pas, attention, ce n'est pas les entreprises qui vont payer, c'est l'État qui va payer. C'est d'ailleurs pas une augmentation, c'est une revalorisation qui était prévue tout au long du quinquennat. Et juste pour terminer, et tout à l'heure, alors à l'Assemblée, Édouard Philippe nous a dit non, ce sera bien tous les salariés payés au SMIC qui vont bénéficier de ces 100 euros, même s'ils ne touchent pas la prime d'activité, alors qu'on nous parlait de cette prime depuis ce matin. Il ne dit pas comment, d'ailleurs. Bref, tout ça reste très flou, je trouve.
Albert Zénou, sur cette mesure, qui est la mesure principale annoncée hier soir par Emmanuel Macron, vous diriez flou comme Savaria Rojec. Après tout, le chiffre 100 euros est un chiffre malgré tout clair.
Il est clair, mais il n'est pas expliqué. Je crois que même les ministres qui sont venus défendre à la tribune la mesure n'avaient pas bien compris. Et plusieurs choses étaient très floues. On sait que la prime d'activité qui est censée apporter ce gain de pouvoir d'achat, elle n'est pas concernée pour un revenu d'activité. Donc il faut avoir une certaine activité. Donc les gens qui sont à temps partiel. N'y ont pas le droit normalement. Et donc ce qu'a annoncé Édouard Philippe à la tribune cet après-midi, c'est justement que même ceux qui étaient en temps partiel pourraient y toucher. On n'y comprend
mais
pas
grand chose. Il ne dit pas comment.
Et on ne sait pas comment. Et alors on ne sait même pas comment elle sera financée.
Ça, c'est, le financement Franck Tapiro, c'est au fond de la dette, tout simplement, nos impôts.
Moi, je dis toujours, parfois, force de vouloir réduire la fracture, on augmente la facture. Permettez-moi ce petit slogan qui montre que c'est vrai, parfois oui, c'est de la dette. Parce que c'est bien de donner, mais il faut savoir aussi comment on le finance, tout ça. Donc moi, je pense que, pour revenir à ce que vous disiez juste avant,
le vrai
problème aujourd'hui, c'est de la pédagogie pure. C'est que la communication, là, intervient pour aider l'action politique. Il n'y a rien de pire que de lancer une mesure, surtout une mesure que tout le monde attend, qui, en plus, a l'air formidable, parce que quand on entend 100 euros, tout de suite, on pense à 100 euros à la fin du mois.
Certains ministres ont appris en direct à la télé hier soir.
Oui, c'est mesure, comme les 75% d'Hollande, ça me rappelle un petit peu. Ça me rappelle exactement ça. C'est le désarroi de l'équipe d'ailleurs, c'est qu'il faut rétro-pédaler pour trouver. Mais c'était quand même une sacrée annonce. Je peux vous dire que l'impact, c'est quoi? On parlait d'impact émotionnel. 100% des gens qui se sentent concernés par cette mesure se sont vus avec 100 euros en poche à la fin du mois. Qu'on le veuille ou non, si on n'arrive pas à ça, il y aura un vrai problème.
Ah oui.
Donc sinon, on n'annonce pas un truc pareil. On ne pourra pas dire aux gens, oui, mais alors c'est 100 euros, mais il faut déduire ceci ou cela. Ou alors, en fonction de certains régimes, non, il n'y a pas de régime. Quand on annonce 100 euros de plus par rapport au SMIC, 100% des gens qui touchent le SMIC, de façon indifférenciée, doit avoir 100 euros de plus à la fin du mois. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris.
Catherine Orban, vous l'accueillez positivement, cette mesure. Vous pensez que ceux-là même qui s'interrogent sur le financement sont des pinailleurs?
Oui. Clairement, parce que de toute façon, il y avait le feu, il fallait promettre quelque chose. Et puis, dans ces revendications des Français, il y a quand même quelque chose de très frappant. C'est que ces gens-là demandent à vivre convenablement de leurs revenus. Ces Français qu'on a beaucoup accusés d'assistanat, machin et tout, ils demandent pas l'aumône. Ils veulent vivre correctement de leurs revenus. Et qu'est-ce qu'on fait depuis plusieurs années? On leur vend que les multinationales sont pas taxées, mais qu'on sait pas récupérer leurs impôts. On leur vend que la mondialisation heureuse, s'ils adhèrent pas, eh ben, c'est des racistes ou des rétrogrades. Donc là, ils veulent juste rétablir, se rappeler un petit peu aux bons souvenirs du politique, en bien sûr qu'il faut cette rallonge de 100 euros est importante, mais elle va dans le sens de vivre décemment d'un revenu. Autour de cette table, nous vivons tous décemment de nos revenus. Ce n'est pas leur cas, il était temps que ce soit entendu. Je ne sais pas si 100 euros suffira à les calmer.
Allez, 20h40 sur France Info, il est temps du rappel de l'info avec vous, Diane Ferchit, et tout d'abord les événements qui sont survenus à Strasbourg.
Oui, plusieurs coups de feu tirés à Strasbourg ce soir dans le centre-ville. On a encore très peu de détails, mais les faits se sont produits au niveau de la Grand-Rue. Il y a plusieurs victimes, plusieurs blessés. Apparemment, le tireur n'a pas été localisé. Pour l'instant, la police fait évacuer le centre-ville. Toutes les hausses de tarifs bancaires prévues l'an prochain sont annulées. Précision de l'Élysée ce soir après la rencontre entre Emmanuel Macron et les représentants des banques. Un engagement qui représenterait 500 à 600 millions d'euros de pouvoir d'achat redistribué au bénéfice des Français selon l'Élysée. Les banques plafonneront aussi à 25 euros par mois les frais d'incidents bancaires pour les ménages jugés en difficulté par la Banque de France. La défiscalisation des heures supplémentaires s'effectuera dès le 1er janvier. Précision de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, devant l'Assemblée nationale. Un peu plus tôt, le Premier ministre a précisé que la mesure s'appliquerait également aux fonctionnaires. Édouard Philippe qui a rappelé la volonté du gouvernement d'aller vite et fort pour revaloriser le travail qui paye. Et selon un sondage Odoxa pour France Info, 54% des Français souhaitent la poursuite du mouvement des Gilets jaunes, un chiffre en baisse par rapport au précédent. précédent sondage parmi les personnes interrogées. Ils sont 6 sur 10 à n'être toujours pas convaincus par les annonces d'Emmanuel Macron. Et les Gilets jaunes ont poursuivi leurs actions. Aujourd'hui, ils étaient encore plus de 10 000 mobilisés dans toute la France à 18h. L'année 2018, deuxième année la plus chaude enregistrée en Arctique, il a fait 1,7 degré plus chaud que la moyenne des 3 dernières décennies. Le rapport annuel de l'administration océanique et atmosphérique américaine révèle également que le réchauffement est 2 fois plus rapide en Arctique que la moyenne mondiale.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Merci à vous Diane Ferchit et j'ajoute selon l'agence France Presse que la municipalité de Strasbourg appelle bien évidemment les habitants de la ville à rester chez eux. Alors l'opposition s'est montrée évidemment critique à des degrés divers après l'intervention hier soir du chef de l'État. Jean-Luc Mélenchon a appelé dès hier soir un acte 5 de la mobilisation des Gilets jaunes samedi prochain. Benoît Hamon, l'ex-candidat socialiste à la présidentielle et fondateur de Génération, estime que les riches sont passés entre les gouttes.
11 milliards, c'est trop peu. 11 milliards.
Le problème, c'est pas de dire 11 milliards. La question, c'est qui paye les 11 milliards déjà, et on verra que les riches, eux, sont encore, ont encore réussi à passer entre les gouttes. C'est-à-dire que ceux qui sont toujours protégés, et systématiquement, d'ailleurs, on a l'impression que le président de la République s'adressait encore à eux hier, ceux qu'il protège systématiquement de toute contribution, qu'il exempte de toute contribution, ce sont les gros actionnaires. Les entreprises polluantes, les banques, les plus riches.
Voilà Benoît Hamon qui était chez vous-même, Savaria Rejec avec Cyril Viguier sur Public Sénat ce matin. Les riches sont passés entre les gouttes. Qu'est-ce que ça veut dire?
Difficile à dire. En tout cas, le président Emmanuel Macron a dit le contraire hier soir. Aujourd'hui, force est de constater qu'il n'y a rien eu sur la redistribution. Il n'y a pas de retour de l'impôt de solidarité, le mot est important, de solidarité sur la fortune. Et là, bien sûr, le sentiment d'injustice, il ne risque pas d'être apaisé avec ces mesures. Alors bien sûr, oui, on l'a vu, il a reçu les patrons des banques tout à l'heure. Il y a eu cette annonce sur les frais bancaires, sur la suspension de la hausse des frais bancaires pour l'année prochaine. Mais ça reste très vague, ça reste à la marge.
Moi, ce qui me frappe, Catherine c'est Rambert. Pourquoi on laisse ce sujet s'approprier par des hommes et des femmes de gauche? Pourquoi en France, il n'y a pas des hommes et des femmes de droite qui disent oui, il y a quand même un problème avec la fiscalité des riches? D'ailleurs, Macron, il a été quand même assez flou là-dessus. Il a dit que les plus fortunés et les grandes entreprises doivent aider la nation à réussir, ce qui sous-entend implicitement qu'elles ne l'aidaient pas jusqu'à présent. Et le quinquennat aurait dû commencer par ça. Quand on demande tant d'efforts aux Français, mais ce discours, il ne doit pas être de gauche. Je veux dire, on peut avoir une conscience libérale, sociale, mais oui, pour dire que c'est absolument anormal de ne pas mobiliser les riches là-dessus. Enfin, sans vouloir retourner au système soviétique.
Albert Zenou, le chef de l'État, a dit hier soir qu'il recevait d'ailleurs, je poursuis la réflexion proposée par Catherine Rambert, les grandes fortunes prochainement.
On ne sait pas pourquoi.
Qu'est-ce que vous comprenez?
Je ne sais pas. En tous les cas, si je reviens sur l'ISF, je tiens à rappeler qu'on est le seul pays à avoir un ISF, même s'il a été, été modifié. On ne l'a plus, sur la fortune immobilière maintenant. Donc on est le seul pays. Donc et ça c'est pas ce qui a aidé non plus les pauvres Français à vivre mieux avant. Donc mais indépendamment de ça, c'était une mesure symbolique. Il l'a pris. Ça a été la première mesure fiscale qu'il ait pris dans son quinquennat. Il la paye depuis.
C'est une erreur. Vous avez raison. On est le seul pays.
Est-ce qu'il y a un constat sociétal au fond quand on voit toutes ces personnes qui revendiquent, au fond, des salaires décents, et ces salaires-là ne le sont pas décents, est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être un juste partage qui devrait être repensé dans ce pays?
Sans doute. Je pense qu'on ne fera pas l'économie. On ne fera pas l'économie d'un Grenelle, d'un grand charivari, de tout ce que vous voulez fiscal. Il faudra refaire quelque chose, puisque le système est à bout de souffle. On voit bien que les classes moyennes peuvent être étranglées, même ceux qui ne payent pas d'impôts. Il y a quand même la majorité des Français ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. Donc, mais le système est à bout de souffle. Ça ne marche pas.
Et pourquoi les classes moyennes et les plus pauvres ont protesté aussi? C'est qu'il n'y a pas d'issue pour eux. C'est-à-dire les réformes qui sont mises en place, même si elles sont bonnes pour le pays, pour eux, il n'y a pas d'issue et d'amélioration prévue.
Et ça, on peut l'entendre même quand on n'est pas de gauche. Elles pèseront sur ces classes moyennes.
Il n'y a pas d'issue. Ils ne vivent pas de leur travail.
Pour répondre à l'appel de Catherine Rambert, est-ce qu'au fond, cette réflexion-là sur une plus juste répartition des revenus, si je puis dire, aurait pu être posée dès le départ de ce nouveau quinquennat?
Oui, il y a d'autres grands pays comme les États-Unis où, à certaines époques, il y avait un Patriot Act qui imposait à 90% les plus grandes fortunes, ils étaient ravis. Pourquoi? Parce que c'est une façon de démontrer à quel point ils étaient américains.
En aucun cas la croissance américaine.
En rien du tout. Donc c'est vrai que dans certains pays, et ça fait des années, hein, ça fait plus de 40 ou 50 ans. Donc n'oublions pas que ça a été fait depuis bien longtemps ailleurs. Mmh. En France, c'est vrai que l'ISF a été présenté au démarrage de façon confiscatoire. En plus, c'est l'impôt qui a le rendement le plus faible, vous le savez, puisque in fine, c'est négatif. Donc au final, ça représente pas grand-chose. C'est un marqueur politique. C'est ce qu'on appelle un marqueur politique. Et Hamon, il lui reste combien de clous? Un. Et un tout petit clou, comme beaucoup de gens de gauche, et je suis d'accord avec vous ce que vous avez dit tout à l'heure, mais les gens de gauche ont un seul clou avec un petit marteau, c'est de coller au dos d'Emmanuel Macron la pancarte président des riches. Tous les moyens sont bons, toutes les occasions sont bonnes.
C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser la gauche s'emparer de ce débat-là.
On sait que c'est une image qu'ils prennent, c'est, ils prennent rien dans l'opinion, mais deux, là où je suis d'accord avec vous, c'est que ça ne pose pas le vrai problème. Ce n'est pas de dire Macron président des riches, c'est plutôt de poser la question aux riches, maintenant, que voulez-vous faire pour la contribution du plus grand nombre? Que voulez-vous faire pour régler cette problématique?
Parce que les grands absents de ce débat depuis
Attendez.
Qu'il a commencé sont bien les très riches. Vous avez entendu une phrase de compassion, vous avez entendu un mot de solidarité,
Catherine,
rien.
Je vois que vous réagissez avec passion et c'est le but de
cette émission. Prendre pour une affreuse gauchiste que je ne suis pas en plus. Franck
Tapiro, la question c'est, est-ce que c'est de demander aux plus riches que pouvez-vous faire ou c'est plutôt de leur demander de faire certaines choses?
Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup se posent non seulement cette question-là, beaucoup réfléchissent à ça. Vous savez, faut pas imaginer, on a encore les vieilles images, le riche, vous savez, à l'arrière de sa Rolls blanche, avec un cigare. Non, on est encore malheureusement dans ces postures.
Ce sont des clichés
ridicules. Vous imaginez, sans les riches, comment est-ce qu'on aurait pu financer autant d'emplois, autant d'économies, autant de croissance? Enfin, n'oublions pas que c'est les riches qui créent salon aussi. Donc, à un moment, un pays qui a pas de riches,
Les entreprises.
J'utilise le mot les riches.
Non, les entreprises.
Mais quand on prend les entrepreneurs qui réussissent, etc.
C'est le mot d'un travail aux gens. Voilà. Alors, si vous demandez trop d'argent, vous allez être licencié.
Je pense qu'un Patriot Act français à établir où tout le monde doit être non seulement pas sur l'égalitarisme, qui est la pire des idées, mais sur l'équité. Et les riches savent entendre l'idée d'équité.
Sujet en tous les cas très.
Ils l'ont pas montré jusqu'à présent.
Sujet en tous les cas très éruptif sur ce plateau ce soir. Saveria Rojec. Il y a quand même un problème de financement quand même de toutes ces mesures annoncées. J'ai un chiffrage sous les yeux qui dit le SMIC c'est 1,5 milliard, les heures sup 2,5, la CSG c'est 2 milliards, bon les taxes, le renoncement c'est 4, on est déjà à 10 milliards d'euros. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, la clé c'est quelle est-elle?
C'est certainement plus
de chiffrer plus précisément
c'est
ces
s'affranchir
mesures.
De la règle des 3%, c'est alors, faire de la dette.
Alors Gérard Lamanin, le ministre des Comptes Publics, tout à l'heure au Sénat à la tribune, il défendait le projet de loi de finances, le budget 2019, il a annoncé un chiffre qui m'a surpris parce que c'est pas celui qu'on a entendu toute la journée auprès du ministre. Il a annoncé 6 milliards d'euros pour la totalité des mesures. Alors que dans le même temps, on entendait Olivier Dussopt, qui est pourtant à Bercy avec lui, qui lui parlait d'une fourchette entre 8 et 10 milliards d'euros. Ça, bien sûr, c'est.
6 milliards d'euros plus les 4 milliards.
C'est sans compter, les 4 milliards, le manque à gagner de la hausse des taxes sur le carbérant.
Mais Albert Zeno, vous dites ça.
Il y a un véritable écueil. Voilà, sur le financement.
Bien sûr, ça peut aller plus loin. Pour l'instant, rien n'est vraiment, vraiment chiffré. On ne connaît pas encore les contours exacts, même du SMIC. On a évoqué ça, le problème tout à l'heure. Donc, on ne sait pas vraiment combien ça va coûter. Certains disent, il y a certaines estimations qui vont jusqu'à 15 milliards.
Voilà. Juste pour terminer, quand on dit 6 ou 8 milliards, il faut quand même se souvenir que la seule défiscalisation des heures supplémentaires sous Nicolas Sarkozy avait coûté 4,5 milliards par an. Donc ça paraît très difficile.
Rappelez-vous qu'il y a 3 jours, la France s'effondrait, on avait tous peur. Là maintenant, on pinaille sur 10 milliards, il n'y avait pas vraiment le choix.
On pinaille pas sur 10 milliards,
20h50 sur France Info. D'autres informations avec vous, Diane Verschiet.
La mairie de Strasbourg appelle les habitants de la ville à rester chez eux alors que des coups de feu ont été tirés dans le centre. Selon la police, il y a plusieurs blessés. Le tireur n'a pas été localisé. Les personnes présentes dans les rues ont été confinées dans des bars. Pas davantage de précisions pour l'instant. On y revient évidemment dès le prochain journal. Dans le reste de l'actualité, les précisions de la ministre du Travail après les annonces d'Emmanuel Macron devant l'Assemblée nationale. Muriel Pénicaud confirme que la défiscalisation des heures supplémentaires s'effectuera dès le 1er janvier. Une mesure qui concernera
aussi des fonctionnaires. Le Sénat a lui donné son feu vert pour accélérer la hausse de la prime d'activité pour les salariés au SMIC. Et malgré l'annulation de la hausse de la CSG pour les retraités qui gagnent moins de 2000 euros, les 9 syndicats de retraités maintiennent leur appel à manifester mardi prochain. Une mobilisation des lycéens plus calme que les précédentes aujourd'hui. 450 établissements ont été perturbés, 60 bloqués à travers tout le pays. Les lycéens protestent notamment contre la réforme du bac, la plateforme Parcoursup et le service national universel. En Nouvelle-Aquitaine, le vaccin contre la grippe est en rupture de stock dans de nombreuses pharmacies. Il y a un début de pénurie selon l'ARS, en cause le succès de l'expérimentation de la vaccination chez les pharmaciens. Et puis dans moins de 10 minutes, un match crucial pour le PSG. Les Parisiens affrontent l'Étoile Rouge à Belgrade en Ligue des Champions. Une victoire leur permettrait d'assurer leur qualification en 8e de finale. Un grand défi selon l'entraîneur du PSG.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Je vous rappelle donc les informations délivrées à l'instant par Diane Ferchit concernant la situation à Strasbourg. Plusieurs coups de feu tirés en plein centre-ville, des personnes blessées et la municipalité de Strasbourg qui invite bien évidemment les habitants à rester chez eux. Nous vous donnons d'autres informations plus amples dès qu'elles nous parviennent. Retour au conflit des Gilets jaunes. Il y a une véritable crainte aujourd'hui. Elle concerne évidemment l'acte 5 de la mobilisation. C'est cet appel que les Gilets jaunes ont fait circuler dès dimanche soir sur Facebook à remettre, passez-moi l'expression, le couvert samedi, avec le risque d'inévitables violences et pillages comme celles qu'on a connues samedi dernier. En marge, il faut le préciser, de la mobilisation des Gilets jaunes, 15 députés La République en marche ces dernières semaines ont fait l'objet de menaces et d'agressions, à l'image de Jacqueline Dubois, cette députée de Dordogne qui a vu sa voiture et celle de son mari incendiée devant chez eux à Vézac. Elle a pris la parole aujourd'hui à l'Assemblée et le Premier ministre Édouard Philippe lui a répondu.
J'en appelle à la responsabilité de chacun. C'est par le dialogue que nous construirons collectivement des solutions. Que comptez-vous faire alors pour que l'activité commerciale reprenne dans nos villes, pour que les Français puissent enfin circuler librement, en sécurité et préparer sereinement les fêtes?
Vous avez été directement témoin, Madame la députée, de cette violence. Heureusement, seuls des biens matériels ont été mis en cause. Mais je sais que d'autres parlementaires ont vu des menaces s'exprimer contre leurs personnes, contre leurs familles, contre leurs enfants. Et on peut toujours, dans le feu de l'action, faire comme si ça n'était pas grave. La vérité, c'est que c'est gravissime.
Saverrière Rogec, les députés visés par des agressions, mais il y a aussi au cœur de la colère l'image elle-même d'Emmanuel Macron qui est visée.
Ah oui, absolument. Moi, j'ai trouvé Emmanuel Macron, un peu d'ailleurs comme Édouard Philippe, je l'ai trouvé hier soir, atteint et inquiet. Je l'ai trouvé véritablement inquiet de ce qui se passait. Je pense qu'il n'a pas vu venir cette crise. Je pense que la paix civile, il ne l'a pas vu ou il n'a pas voulu l'écouter, non, certes.
Beaucoup. Voilà. Peu de gens l'ont vu. Hein, l'ont
mais
vu,
la paix civile, néanmoins, la paix civile, elle a été ébranlée dans notre pays. Et ça, c'est pas rien. Maintenant, je pense que oui, bien sûr, il cristallise. On est même au-delà de la colère. Aujourd'hui, il cristallise la rage autour de lui. C'est ce qu'on a entendu et ce qu'on entend encore aujourd'hui, 5 semaines après le début du mouvement. Et le problème, pardon, mais quand on tombe dans de tels bas de popularité, il est impossible de remonter. Tous les prédécesseurs, qui n'avaient d'ailleurs pas eu à faire face à une telle crise, oui, n'ont pas réussi à récupérer de la popularité.
Et pour poursuivre Albert Zanou sur ce que dit à l'instant, Saverrière Rogec, image également atteinte, peut-être même au niveau européen.
Même au niveau européen, puisque on le voit, Emmanuel Macron qui avait pris, dont le combat européen n'est pas à démontrer, et il voulait prendre le leadership en Europe. Angela Merkel est assez mal embarquée dans son pays. Il y avait une place à prendre, et il était censé défendre cet idéal européen et reprendre l'avantage et le leadership. Et là, on voit qu'avec avec ces mesures annoncées hier, c'est quand même entre 10, 15 milliards, on ne sait pas encore combien. Mais en tous les cas, la règle des 3% va être
Il faut s'asseoir dessus, là. Oui.
Enfoncé.
Oui.
Donc, Emmanuel Macron, qui voulait faire parfois la leçon, notamment aux Italiens, qui se sont pressés d'ailleurs dès aujourd'hui de dire que si leur budget avait été retoqué, celui de la France serait lui aussi regardé de près. Ce qu'a confirmé d'ailleurs le commissaire européen Moscovici. Donc, il y a une vraie atteinte au niveau européen pour Emmanuel Macron.
Catherine Rambert. Mais enfin bon, moi je pense que les États européens aussi doivent craindre aussi que ça bouge un peu chez eux, parce que le mouvement français peut faire tache d'huile. Je pense qu'Emmanuel Macron, il avait très bien analysé l'obsolescence de notre système politique. Là-dessus, il avait posé un diagnostic très juste. Il a mal estimé l'état de la société et il paye aujourd'hui cette mauvaise estimation.
Et d'ailleurs, hier soir, il a absolument pas évoqué l'idéal européen. Oui.
Il va falloir conclure. Est-ce qu'on revient sur un tel déficit d'image?
D'abord, l'idée n'est pas de remonter dans les sondages. L'idée et l'objectif d'Emmanuel Macron, c'est de remonter le moral des Français. S'il veut remonter, on n'est jamais élu président, surtout quand on veut réformer, pour être au top dans les sondages. On sait très bien qu'on devient impopulaire. Là, le problème, c'est pas ça du tout. Le problème, c'est qu'il doit remonter, d'abord, le moral des Français, remonter la crédibilité de la parole publique et de la parole politique. Parce que on est au niveau zéro. C'est pour ça qu'on a oublié quand même une mesure. C'est plus qu'une mesure, c'est une méthode extraordinaire. Il a fini par ça. Moi, ça fait 10 jours que, aussi, je milite pour cette idée. C'est de redescendre sur le terrain avec les maires. Oui. Avec ces hommes politiques du quotidien. Oui. Qui sont, eux, pieds, tous les jours, devant
et qui vont être sollicités.
La réalité des gens, devant leurs souffrances, devant aussi leurs envies, devant leur incapacité parfois de s'exprimer, de se faire comprendre. Et le fait de faire un tour de France avec les maires, main dans la main, c'est redescendre dans la réalité, c'est se remettre en marche d'abord un peu, comme la dialectique de sa campagne. Et je trouve que c'est revenir de façon plus humble face aux Français pour essayer de proposer des choses intéressantes.
C'est le mot de la fin, rapidement, Albert Zenou, à la une du Figaro demain.
Le pouvoir d'achat, le pouvoir, enfin en tout cas l'État laisse filer les déficits.
Allez, à lire dans le Figaro demain. Merci à tous les quatre. Merci Savaria Rojek. Merci Catherine Rambert, Albert Zenou et Franck Tapiro d'avoir participé à ces informés de France Info. Pour ma part, je vous dis à demain soir pour une toute nouvelle édition. Bonsoir.